Ne croyons-nous pas que la pureté l'amitié vaut mieux que la souillure, que l'amour vaut mieux que l'égoïsme, que la paix vaut mieux que le désespoir de nos douleurs ou la tristesse de nos plaisirs. Gardons-nous de cette piété imprudente qui se dissipe, s'évapore en se dépassant elle-même par ses propres manifestations. À la place de la source d'eau vive, elle laisse très tôt des citernes crevassées qui ne contiennent plus rien. Il faut se prémunir aussi contre cette lâcheté intérieure qui nous fait retenir captive la vérité qui est en nous. Soyons ce que nous sommes par la grâce de Dieu, ni plus ni moins. Mais ce que nous sommes, soyons-le ouvertement, résolument et aux yeux de tous. L'être humain est fait pour vivre dans l'éternité, mais il est placé dans le temps. Un seul mot résume sa destinée, l'obéissance à celui qui l'aime par-dessus tout. Cette soumission, Dieu nous demande d'en faire preuve maintenant dans le monde, c'est-à-dire d'accomplir sa volonté dans nos rapports avec les choses de la vie, ainsi qu'avec les hommes. Là se situent nos devoirs. Mais c'est là aussi que réside le problème. Il se trouve en effet que pas un seul des objets de nos obligations n'est exempt de tentation, car le mal est dans notre cœur. Lorsque la vie nous propose de marcher à la rencontre du mal pour le combattre, souvent, hélas, c'est nous qui sortons meurtris de la lutte. Et nous connaissons cependant la source de la force. Il n'y a plus. Nous sommes tout d'abord en danger d'être vaincus par le mal, alors que notre mission est de le vaincre. Ensuite, nous nous exposons à trouver un grand écueil dans ce qui est bon, honnête même au sens du saint des œuvres de la foi. La dispersion de l'esprit. Ces œuvres essentiellement spirituelles, relevant de l'amour et qui devraient procéder de la source divine, s'en séparent. Ils ne sont plus que l'objet d'un intérêt tout humain. Nous nous préoccupons d'une bonne action. Nous nous rendons à une réunion spirituelle dans les mêmes dispositions que si nous allions au spectacle ou à une assemblée quelconque. S'agit-il d'un manque de foi? Peut-être ne laissons-nous pas la parole de Dieu nous éclairer assez à chaque instant. Il est difficile de vivre dans le monde tout en se maintenant d'une façon continue en présence de Dieu. Il n'est pas facile d'imaginer le temps sans perdre de vue l'éternité. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, dit Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, continue-t-il. Le problème est en nous et nulle part ailleurs. Une lutte doit s'engager. Deux issues extrêmes se présentent. Les uns, après quelques efforts, renoncent à la poursuite d'un idéal qui les décourage. Ils se mettent à vivre au jour le jour, mais non comme un ouvrier assidu accomplit sa tâche. Ils s'oublient, se perdent, se dissipent et ne regardent plus au-delà de l'horizon de l'existence. Ils renoncent aux promesses de Dieu. La seconde issue, c'est de rompre délibérément avec le monde, de s'enfermer dans la cellule d'un cloître ou dans la solitude de sa demeure afin de consacrer tout son temps à la pratique de la prière, de la contemplation. Loin des relations ordinaires avec la société humaine, les tentations s'estompent ou changent de nature. On tente ainsi de commencer à vivre ici-bas pour, autant que cela soit possible, l'existence de l'éternité. Cela me fait penser à nouveau à ce que Jésus enseigne sur la lumière que nous devons être. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le chrétien, lui, ne peut tomber dans ces extrêmes. Sa règle, c'est la vie, c'est le combat de la vie. Il veut arriver à vivre dans le monde en se maintenant sans cesse dans le sentiment de la présence de Dieu. Grâce à la parole de Dieu, de ce Dieu vivant, sa Bible lui permet d'agir, de se renouveler par la méditation et la prière. C'est comme cela qu'il se désaltère aux sources vives de l'action. Il parvient ainsi à rendre sa vie, sa spiritualité, son humilité, sa pureté plus active, et ses actes de plus en plus conscients, recueillis même. Telle est la voie que choisit le disciple de Jésus-Christ. Elle n'est pas aussi rude qu'il y paraît. Au XVIIe siècle, Fénelon écrivait « Il ne faut pas beaucoup de temps pour aimer Dieu. Pour se renouveler en sa présence, pour élever son cœur vers lui, pour lui offrir ce que l'on fait, ce que l'on souffre, voilà le vrai royaume de Dieu en dedans de nous que rien ne peut troubler. » Quand la dissipation des sens et la vivacité de l'imagination empêchent l'âme de se recueillir d'une manière douce et sensible, il faut du moins se calmer par la droiture de la volonté. Alors le désir de méditation est une espèce de recueillement qui suffit. Il faut se tourner vers Dieu et faire une droite intention pour tout ce qu'il veut que nous fassions. Comme la plupart des grands écrivains religieux de son époque, Fénelon oublie parfois trop qu'on ne peut opposer Dieu à la créature. Parce que Dieu est notre Père, et qu'il ne faut pas agir de même en ce qui concerne la sainteté et le bonheur, ces deux termes ne désignent-ils pas un seul état? La vie doit s'alimenter à la source. Il faut incessamment puiser et repuiser dans la volonté de Dieu le sentiment de l'éternité. Les contingences de l'existence temporelle risquent toujours de nous arracher. Pour cela, il faut vivre à la réalité de la présence et de l'action de Dieu en nous par sa parole. C'est ce qui manque le plus à l'humanité. Il y a quelqu'un en nous, en dehors de nous-mêmes. Nous ne sommes pas seuls. Est-ce Dieu ou est-ce moi qui me parle? Se demandait Augustin. Quelqu'un en nous nous regarde, nous aime. Nous le sentons peu. Le croyons peut-être encore moins, plongés et entraînés que nous sommes par d'autres joies, d'autres pensées, d'autres avidités, parce que nous sommes ailleurs. Dieu, son Fils, son Esprit sont les bases de la véritable spiritualité. Et cela, des millions de gens se refusent à le croire, à le ressentir. L'Évangile par lequel l'Éternel nous est manifesté et la vie éternelle promise, l'Évangile se maintient parmi les hommes, non par le moyen d'institutions, de structures extérieures, mais uniquement par leur cœur, leur âme, leur esprit. C'est l'intérieur qui rejoint la spiritualité chrétienne, tellement elle est riche et profonde. Le sentiment de l'infini peut seul servir de base à une introspection salutaire. C'est dans l'infini que s'inscrit chaque verset de la Bible. C'est dans l'infini que nous devons nous prolonger par l'obéissance à la volonté divine. Alors, nous pouvons entrevoir par la foi, agissant dans la repentance, cette nouvelle naissance, résultant de notre immersion dans les eaux du baptême en Christ.
Alléluia, 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 alléluia.
Programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui m'a présenté. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont attachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Catholique et le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité de nous. Parlons de ce que la Bible dit et de nos confirmations à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Sénès. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398.